Les enjeux internationaux, Mélanie Chalandon.
Alors c'est une image qui a fait le tour du monde depuis vendredi dernier. Kim Jong-un et Moon Jae-in, les deux dirigeants de Corée du Nord et de Corée du Sud, se serrant la main, tout sourire, lors du fameux sommet intercoréen de vendredi au cœur de la zone démilitarisée. Une rencontre déjà qualifiée d'historique par certains, en tout cas totalement inespérée il y a encore quelques mois, tant la tension était forte entre la Corée du Nord et son voisin, mais aussi avec les États-Unis. Alors la paix et la dénucléarisation de la péninsule, ce sont les promesses, en tout cas les intentions proclamées à l'issue du sommet. Mais au-delà des symboles qui ont été nombreux, quelle application réelle peut-on espérer maintenant? Eh bien, c'est l'une des questions que nous posons tout de suite à Antoine Bondaz. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes avec nous par téléphone et je vous en remercie. Vous êtes chargé de recherche à la Fondation pour la Recherche Stratégique. Vous êtes spécialiste de politique étrangère des deux Corées, mais aussi des questions de dissuasion, de désarmement. Alors sur la dénucléarisation, pour commencer, hier les États-Unis ont déclaré qu'ils pourraient s'appuyer sur un texte déjà signé par Pyongyang, l'accord Nord-Sud de 92. Un texte signé mais jamais respecté qui prévoyait notamment l'engagement des deux parties à ne pas fabriquer, posséder ou utiliser des armes nucléaires. Est-ce qu'à votre avis, les intentions de la Corée du Nord sont aussi ambitieuses que ce texte de 92?
Alors, à court terme, il sera extrêmement difficile pour la Corée du Nord de tenir les engagements qu'elle a pourtant annoncés dès, comme vous l'avez rappelé, 92, année de la déclaration conjointe avec la Corée du Sud. Depuis, il y avait eu de nombreuses annonces et engagements nord-coréens, que ce soit en 94 avec les États-Unis, en 2005 dans le cadre des pourparlers à 6 qui rassemblaient à l'époque les deux Corées, la Chine, les États-Unis, la Russie et le Japon. L'objectif pour Kim Jong-un, à très court terme, apparemment, c'est avant tout d'avoir un sommet avec Donald Trump, mais en aucun cas de dénucléariser. En tout cas, il n'y a pas encore de signes concrets.
Oui, parce que justement, j'allais vous demander quel intérêt pour la Corée du Nord, foncièrement, de s'engager dans une dénucléarisation ambitieuse, alors même qu'on nous explique depuis des mois que son arsenal nucléaire, que la bombe, c'est aujourd'hui sa force, c'est son assurance-vie, c'est un terme qui revient souvent, c'est son assurance-vie sur la scène internationale.
Alors, je pense qu'il y a deux dimensions principales. La dimension, comme vous dites, de défense, la dimension militaire, ce qu'on présente souvent comme l'assurance-vie du régime, même s'il faut la relativiser, puisque la Corée du Nord dispose depuis les années 60-70 d'une capacité de dissuasion conventionnelle sur la Corée du Sud, notamment, et tient en otage la ville de Séoul, qui rassemble plus de 20 millions d'habitants. Et il y a en réalité une deuxième dimension à ce programme nucléaire et balistique, une dimension politique. Ces programmes ont été utilisés par Kim Jong-un depuis son arrivée au pouvoir fin 2011 comme des outils de légitimation, de consolidation de son pouvoir. Ils ont annoncé, la Corée du Nord a annoncé fin 2017 qu'elle avait complété ses forces nucléaires. Kim Jong-un a annoncé qu'il avait atteint l'objectif donné par la Corée du Nord. Il est donc extrêmement peu probable pour la Corée du Nord de se dénucléariser à très court terme.
Et donc l'annonce également d'inviter des journalistes, la presse internationale à venir assister au démantèlement d'une centrale, on peut imaginer que ce sera le même scénario déjà produit dans le passé, c'est-à-dire effectivement on assiste au démantèlement éventuellement d'un site, mais cela ne recouvre absolument pas la réalité d'une dénucléarisation ?
Alors, premièrement, pour l'instant, la Corée du Nord a seulement annoncé qu'elle fermait un site d'essai nucléaire, le site de Pyongyang, mais en aucun cas qu'elle mettait un terme à ses programmes nucléaires et balistiques, et encore moins qu'elle allait démanteler ses programmes nucléaires et balistiques. Or, c'est l'objectif de la communauté internationale qui souhaite atteindre une dénucléarisation complète, vérifiable et irréversible de la Corée du Nord. Deuxièmement, et encore une fois, la Corée du Nord, et on peut donner l'année 2017, s'était engagée à démanteler ses capacités, notamment le site d'enrichissement de Yongbyon. On rappellera notamment ses différents engagements 2007, avant même le sommet intercoréen, et malheureusement, quelques mois après, la Corée du Nord avait renié ses engagements. Il y a donc un vis-à-vis des annonces récentes de la Corée du Nord, mais un optimisme extrêmement prudent, et on est encore extrêmement loin d'une Corée du Nord dénucléarisée.
Alors sur la question de la paix, qui était le deuxième volet de la déclaration commune, une déclaration commune très claire d'ailleurs, il n'y aura plus de guerre dans la péninsule coréenne, je cite. Et pourtant, bien sûr, aucun traité pour l'instant n'a été signé. On reste dans les intentions. Ce matin, la Corée du Nord a annoncé décaler, réaligner son fuseau horaire sur celui du Sud. Mais peut-être qu'il va falloir un peu plus que des symboles pour une véritable paix.
Alors effectivement, la signature d'un traité de paix est un sujet qui dure depuis des années, voire des décennies, dans la péninsule coréenne. Les différents sommets intercoréens de 2000-2007 avaient également fait de la signature d'un traité de paix un objectif principal. La nouveauté depuis vendredi, entre guillemets, c'est la volonté et surtout l'annonce que la paix sera signée avant la fin de l'année, et que très certainement le président sud-coréen retournera, ou en tout cas ira à Pyongyang, justement en octobre, afin de réaliser un deuxième sommet intercoréen pour cette année 2018. Alors, dans les faits, concrètement, l'objectif de la Corée du Sud, c'est d'apaiser les tensions entre les deux Corées, de réduire notamment les tensions militaires entre les deux Corées, mais il faudra là, encore une fois, prendre nombreuses mesures avant d'arriver à une paix véritable.
Est-ce qu'on peut imaginer un véritable traité de paix? On peut imaginer qu'il obligera à revenir sur une histoire douloureuse, à revenir jusqu'à la guerre de 1950-1953, qui a nécessairement été vécue de manière différente de part et d'autre. Est-ce qu'on peut imaginer que ce traité permettrait d'aborder des questions difficiles, celles de la responsabilité de part et d'autre, peut-être celles de réparation éventuelle? On imagine que ce sera peut-être pas aussi simple qu'une poignée de main.
Dans le contexte politique actuel, il sera très difficile d'imaginer que les deux Corées vont établir des responsabilités qui seraient soit celles du Nord, soit celles du Sud.
Comment avoir une véritable paix durable si on ne revient pas sur ces responsabilités, voire des réparations?
Alors, comme vous le dites, c'est fondamental, puisque au-delà de la paix, c'est la réconciliation, non seulement entre les deux gouvernements, mais surtout entre les deux peuples qui est en jeu. La question, encore une fois, des réparations, je pense, ne se posera pas entre les deux Corées à très court terme, puisque cela, justement, risquerait d'empêcher la signature d'un traité de paix. Et rappelons également que sur le plan légal, les États-Unis et la Chine, à travers ce qu'on appelait à l'époque les volontaires chinois, ont été partis au traité de l'armistice de Panmunjom de 1953. Et donc Washington et Pékin, très certainement, devraient également faire partie du traité de paix s'il y en avait un avant la fin de l'année.
Et ce qui impliquerait peut-être les États-Unis sont présents militairement en Corée du Sud. Est-ce qu'un traité de paix impliquerait le départ des forces américaines de la péninsule?
Alors c'est une demande répétée de la Corée du Nord, mais aussi par exemple de la Chine, premier allié politique de la Corée du Nord. Cependant, en Corée du Sud, ce scénario-là est encore assez crédible pour une raison simple, c'est que la population soutient majoritairement la présence américaine dans la péninsule coréenne et qu'un traité de paix en soi ne change pas profondément les équilibres dans la péninsule coréenne et que cela ne voudrait pas dire que la Corée du Sud n'aurait plus besoin d'une alliance militaire.
Vous avez évoqué la Chine. On apprend aussi ce matin que le ministre des Affaires étrangères chinois se rendra cette semaine en Corée du Nord. La Chine, on le sait, très proche de la Corée du Nord, mais est-ce qu'elle n'aurait pas été un peu marginalisée par le processus en cours de réconciliation des deux Corées, et puis surtout ce dialogue à venir avec les États-Unis? Au fond, la Chine a-t-elle, elle, intérêt à ce rapprochement, cette réconciliation des deux Corées?
Alors, les objectifs de la Chine dans la péninsule coréenne ont toujours été affichés comme étant la stabilité de la péninsule, la dénucléarisation de la péninsule et la reprise du dialogue entre les deux Corées. Pour l'instant, on avance théoriquement sur ces trois points. C'est donc théoriquement, encore une fois, dans l'intérêt de la Chine de soutenir ce processus. Alors, est-ce que la Chine a été mise de côté dans ce rapprochement récent? Seulement partiellement. On rappellera que Kim Jong-un s'est quand même rendu à Pékin. C'était sa première sortie du territoire depuis fin 2011. Et même si la Chine n'est pas en première ligne, ce qui se passe en ce moment est en tout cas dans son intérêt.
Vous voulez dire qu'il y a un lien entre cette rencontre récente, vous le disiez il y a quelques semaines, entre les deux dirigeants chinois et nord-coréens et le processus auquel on, enfin le retournement assez spectaculaire quand même, le processus auquel on assiste ces derniers jours?
Il y a en tout cas eu côté nord-coréen la volonté de s'assurer du soutien de la Chine avant ces grands événements internationaux entre les deux Corées et entre la Corée du Nord et les États-Unis. Est-ce que c'est la Chine qui est responsable de ce rapprochement intercoréen? Je ne pense pas. Ce rapprochement intercoréen, il est dû avant tout aux deux Corées. Côté sud-coréen, à un président Moon Jae-in qui a tendu la main à partir de son élection en mai 2017. Et côté nord-coréen, un changement de stratégie de la part du jeune dirigeant qui, à partir de fin 2017, a annoncé qu'il avait complété ses forces nucléaires nationales et ce qui ouvrait donc la voie à une nouvelle séquence politique.
Vous l'avez évoqué, la prochaine étape, c'est une rencontre entre Kim Jong-un et Donald Trump. Donald Trump s'est d'ailleurs vendredi attribué les mérites du succès de la rencontre entre les deux dirigeants coréens, au-delà peut-être d'une part de vantardise du président américain. Est-ce qu'il peut y avoir aussi une part de vérité dans les propos de Donald Trump, à savoir qu'une posture de fermeté de la part des États-Unis aurait finalement permis de débloquer certaines choses, alors que jusqu'ici la posture américaine n'avait rien donné quand même?
Alors la stratégie américaine a très certainement eu un impact. La question aujourd'hui, c'est d'essayer de le mesurer, et ça, ce sera extrêmement compliqué. La stratégie américaine, qui est celle d'une pression maximale sur le régime de Pyongyang, symbolisée notamment par les sanctions de l'ONU qui, depuis la fin de l'année 2016, ont considérablement renforcé les sanctions, notamment économiques, sur le régime de Pyongyang. Cependant, il est encore trop tôt pour se satisfaire de la réussite de cette stratégie américaine. L'objectif, dans les semaines qui vont venir, c'est de transformer en engagement politique de la Corée du Nord, rappelé à de maintes reprises depuis le début des années 90, en une feuille de route technique qui permettra à moyen, voire long terme, la dénucléarisation complète, vérifiable et irréversible, et pour l'instant on en est encore extrêmement loin.
Eh bien merci beaucoup Antoine Bondaz pour votre analyse ce matin sur ce fameux sommet intercoréen. Merci beaucoup, je rappelle que vous êtes chercheur à la Fondation pour la Recherche Stratégique. Demain dans les enjeux internationaux, nous parlerons de la situation au Nicaragua.